Ouais, moi je m'appelle Hugo et donc je fais partie d'un groupe de sociétaires. Ici on n'est que quelques-uns des sociétaires nombreux de l'atelier paysan. Et on s'est spécialement penché l'année dernière sur tenter d'inscrire la démarche de l'atelier paysan dans un projet politique qui n'avait pas été encore explicité comme ça. Voilà, et du coup bah, nous on a beaucoup participé à ça.
Donc Nicolas, aussi sociétaire de l'atelier paysan, est impliqué dans ce groupe d'écriture.
Quel titre?
Bah,
Bon,
titre, bon, bah, titre, ouais, un
celui de
titre, quoi.
savoir. Donc, Jean-Claude, même motif, même punition. Sociétaire de l'atelier paysan, inclus dans le groupe d'écriture de l'ouvrage dont on va parler tout à l'heure.
Ouais, Fabrice, du coup moi aussi sociétaire de l'atelier paysan, alors j'ai un rôle un peu particulier parce que je suis et fondateur et gérant, et membre de la gérance de l'atelier paysan, donc bah, y compris à mettre au travail un espace de la coopérative, un espace d'élaboration, où finalement ce qu'on a fait c'est une conception collective ben, d'un essai politique.
Manu, je suis également sociétaire de l'atelier paysan. J'ai participé aussi à l'écriture de ce livre, Reprendre la terre aux machines. Voilà.
Florian, paysan et sociétaire de l'atelier paysan. Voilà, et gracieusement invité à participer à ce livre.
On a souhaité préciser des termes comme souveraineté alimentaire dans le livre parce que on considère qu'ils sont employés au moins à double sens en ce moment. Nous, on vient d'une tradition, enfin d'une histoire politique de paysans et de paysannes dans le monde entier qu'on définit cette notion-là de souveraineté alimentaire comme la capacité des peuples à être autonomes pour leur propre alimentation. Et notamment par rapport aux grands pays exportateurs, etc. Donc de protéger leur alimentation. Et ce terme-là, dont on se revendique dans nos parcours, en ce moment est pas mal réutilisé par précisément et ben une industrie qui fait l'inverse de ça et qui fait l'amalgame entre souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, mais plutôt à l'échelle d'un État qui serait moins dépendant d'exportation, voilà. En tout cas, il n'y a pas cette notion d'autonomie, la notion d'autonomie qui est celle finalement qui nous parle le plus. Donc après, on apporte quelques précisions, mais plutôt d'ordre philosophique sur pourquoi l'autonomie nous cause plus que la souveraineté. Mais au final, c'est pas ça qui est important, je pense, la discussion philosophique, mais c'est de rappuyer que c'est bien cette visée politique d'autonomie qui nous cause, qui est, elle, absolument liée à la question démocratique. À notre capacité, qu'elle soit communautaire ou à l'échelle d'un peuple entier, à nous doter de nos propres règles, à être en capacité de nous auto-limiter, voilà, à prendre possession de nos vies. Et c'est absolument pas. On a besoin de préciser ces textes pour se distinguer d'un terme qui renvoie en ce moment-là à des réalités inverses. En ce moment, là, récemment, suite à la pandémie, la FNSEA, le grand syndicat qui a accompagné l'industrialisation de l'agriculture et qui a la mainmise sur l'appareil agricole en grande partie, emploie ce terme, emploie même un terme de souveraineté alimentaire territoriale, depuis notamment qu'ils n'ont plus accès, que la pandémie a montré que l'accès aux travailleurs détachés des pays étrangers à très bas coût de production leur était plus accessible quand les frontières se ferment. Et du coup, bah, se sont réintéressés finalement à cette question-là, alors qu'ils ont par ailleurs des positions totalement libre-échangistes, qui sont du coup pas cohérentes. Donc on estime que là, il y a plutôt un terme marketing d'opportunité, une confusion volontaire de leur part, voilà, qui nous a amené à préciser ce livre, ce terme.
Oui. Pourquoi l'autonomie alimentaire paysanne ne serait pas une autarcie paysanne alimentaire? Autarcie, totalement fermée sur soi-même, je suppose, je ne suis pas allé regarder.
Moi, je ferais des parallèles. Après, peut-être ça pourrait être complété, mais je dirais que, en tout cas, d'un point de vue combatif, je rapporterais l'autarcie. à des dimensions de collapsologie et puis de résilience à marche forcée, et puis la question d'autonomie, ben je la collerai plus à la transformation sociale.
Okay. Du coup, on pourrait presque dire, on se l'est dit d'ailleurs, pourquoi pas la redire, dans ces termes-là, l'autarcie, ça serait une forme de penser avec, et de faire avec la catastrophe face à qu'on prétend décrire. Quoi. Et l'autonomie, ça serait penser contre et faire contre. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Tu vois, la résilience étant aussi une façon de faire avec, quoi. Et de s'habituer petit à petit à l'idée qu'on va vers une catastrophe et qu'on doit faire avec. Et ça, on ne peut pas l'accepter, en termes alimentaires et agricoles.
Après, de façon peut-être plus basique, souvent, même dans le milieu des néo-paysans, les gens qui vont s'installer, pour qui autonomie peut causer est une valeur, en tout cas, qu'ils estiment porter, souvent cette vision-là, elle se limite à la ferme, finalement. Voilà, je vais être autonome énergétiquement sur ma ferme, je vais être autonome en semences, en intrants, etc. Et donc c'est ça qu'on pourrait rapprocher de l'autarcie, finalement, même si en soi c'est discutable. Hein. Si on regarde chez les Grecs ce que veut dire autarcie, en fait c'est assez proche de la notion d'autonomie, mais bon, bref. Aujourd'hui, la notion d'autarcie, elle est un peu péjorative. Voilà. Du coup, bon, pour faire simple, disons que la question de l'autonomie individuelle sur la ferme est une question intéressante, mais n'est pas une visée politique pour nous. On a besoin de commencer par dire que cette question de l'autonomie, pour nous, est un projet politique collectif, absolument. Voilà, peut-être pour faire ce simple.
Et une vision... Une vision très libérale de l'économie, de l'autonomie qui s'est développée, qui est de la considérer individuellement. Alors que l'autonomie, c'est faire l'inventaire de ses dépendances, de choisir celles qu'on veut renforcer, de choisir celles qu'on veut abandonner de dépendance. Donc c'est se donner sa propre loi, d'après Castoriadis, mais c'est aussi... de façon pratico-pratique, donc c'est comment je vais interagir avec mes voisins. Elle est forcément collective, l'autonomie.
Donc il y avait aussi cette notion de sortir de l'urgence, de vraiment prendre, sortir de l'immédiateté en fait dans les réflexions qu'on peut mettre en place. Voilà, regarder l'urgence en face et prendre le temps de la regarder, juste pour bien réagir en fait. C'est comme ça que je le voyais.
Et puis je crois que dans le sujet qui concerne en premier lieu l'atelier paysan, la question de la technologie, il se trouve que le monde de la technologie utilise abondamment le terme autonomie dans un sens qui est précisément inverse, mais c'est un peu ce que tu disais, la voiture autonome par exemple, c'est une voiture qui conduit tout seul. Et ça dit qu'on est délivré du travail de devoir conduire une voiture, voilà, tout ce qui va être autonome au sens de la technologie, c'est quelque chose qui nous délivre de l'effort, délivre du travail, délivre de la contrainte, autonome des saisons, autonome de la terre, voilà, pas besoin de s'en occuper, on peut faire sans les saisons, en chauffant une serre, même l'hiver, on peut faire sans la terre, en faisant cultiver hors sol, voilà, la technologie, c'est sa vision très politique de l'autonomie, et du coup, on a eu besoin de préciser ce terme aussi pour, encore une fois, montrer que c'est l'inverse. Comme l'a dit Nico, plutôt choisir ses dépendances, ne pas être délivré du travail, au contraire, mais choisir ses contraintes.
Le robot va nous rendre dépendants d'un système de satellites lancé par la NASA, d'une industrie avec des chaînes de valeur géantes à travers la planète pour l'électronique, de fermes de serveurs, de GAFAM, de... Voilà. Donc on est, avec la voiture autonome, le tracteur autonome, on est à des années-lumière de l'autonomie comme on la conçoit nous.
Et comme on la conçoit nous, l'autonomie, eh ben, ça donne une sacrée force collective. Reprendre la terre aux machines, c'est un pur produit d'une autonomie collective.
Une des premières illustrations qu'on peut donner, c'est pas un exemple, mais c'est juste une illustration, c'est qu'on peut constater dans n'importe quel bouquin de statistiques économiques que quand on modernise, quand on examine l'économie d'un pays, on caractérise sa modernisation par l'abaissement du nombre de personnes habitant en milieu rural et participant à la production alimentaire. Autrement dit, du regard économique général, je sais pas si c'est de la philosophie ou quoi que ce soit, mais quand un économiste regarde les chiffres statistiques sur un pays, plus il y a de paysans dedans, plus les gens sont bêtes à l'intérieur. Quoi. Et plus l'illettrisme est grand, plus il y a de paysans de grands. Il va faire des rapprochements de ce style-là. Mmh. Ça, c'est une forme de mépris complètement institutionnel. Là, on considère un pays moderne à partir du moment où il n'y a plus de paysans dedans. Et il n'y a pas encore très longtemps, dans un film fait par un voisin à toi, Edouard Nonet, là, le dernier laitier, il interviewe la responsable à Bruxelles de la commission agricole et donc du sort des paysans, en lui disant « Mais regardez, madame, la disparition des paysans de ces dernières années, qu'avez-vous à nous dire de ça ?» Et là, elle m'a dit « Mais quand même, monsieur, nous sommes en train de nous moderniser, nous allons faire disparaître les paysans, mais vous avez quoi contre ça ?» Et alors qu'elle est en charge même de la protection des politiques de production alimentaire dans l'Europe. Donc le mépris institutionnel, c'en est un, il y en a d'autres, mais le mépris institutionnel pour la paysannerie et le travail de manière générale, d'ailleurs, le travail incarné, on pourrait dire manuel, et se traduit dans les statistiques. Hein.
Et la machine agricole, la machine agro-industrielle s'est particulièrement mise en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de manière puissante, et ce mépris, c'en est un complément indispensable, de décrédibiliser tout ce qui a trait à la production alimentaire. Et une production alimentaire qui soit socialisée. Il y a bel et bien eu un projet de suppression des populations paysannes.
On prend ta phrase.
il y a bel et bien eu un projet de suppression et d'élimination des populations paysannes et donc d'une alimentation, on va dire, qui fasse sens.
Un projet s'appuyait sur un mépris déjà là, qui remonte à au moins deux siècles, hein, au moins. En tout cas, nous, dans le bouquin, on n'est pas remonté plus loin, mais depuis la révolution industrielle, en fait, ce truc-là a avancé. L'image dégradée des paysans sur eux-mêmes a été construite avec la révolution industrielle. Il a fallu quand même convaincre. Alors, les conditions de vie étaient rudes, c'était pas idyllique, évidemment, mais il a fallu aussi passer par... changer la philosophie qui portait les gens, les systèmes de valeurs. En creusant la question d'autonomie, on s'est aperçu que cette question d'autonomie, même si elle n'était pas nommée comme ça, mais cette idée de pouvoir choisir ses contraintes, d'avoir un bout de terre, une bête, pouvoir être en autosubsistance pour sa famille et sa communauté, c'était une valeur massivement partagée par les classes populaires avant ce qu'on a appelé la modernité, avant d'arriver dans un nouveau système de valeurs qui a plutôt été amené par la bourgeoisie, et qui a sous-tendu toute cette idéologie du progrès. Et du coup, bah, fatalement, le système de valeurs qu'il a voulu remplacer s'est retrouvé dégradé, complètement ringardisé, voire violenté. Et donc, l'exode rural s'est fait dans la violence, hein, on le sait. Mais il y a aussi cette violence symbolique qui s'est exercée sur les paysans en leur disant du jour au lendemain, le progrès, c'est l'inverse que ce que vous êtes. Et donc ça date depuis deux siècles. Et ça n'a pas été, si on va pas refaire toute l'histoire, mais le mouvement ouvrier n'a pas aidé à ça non plus. Les mouvements qui donnent notre imaginaire de gauche aujourd'hui, le socialisme a eu une position plus qu'ambiguë par rapport aux questions du progrès et a plutôt récupéré cette côté-là des valeurs bourgeoises pour mettre en avant le progrès au service ce coup-ci des ouvriers, non pas des bourgeois, mais en faisant disparaître aussi les paysans, ce qui s'est passé en Russie par exemple. Et donc, un siècle et demi, on arrive en 1940, les dégâts sont déjà là. Il n'y a plus qu'à mettre la dernière couche de disparition avec le même argument du progrès et des valeurs qui véhiculent.
Une phase plus récente dans la modernisation agricole qui est d'essayer de revaloriser le métier. Alors on a tout fait pour que le travail de la terre éloigne le paysan de la terre, éloigne le paysan des animaux. Et donc on essaie de les convaincre de se transformer en agri-manager. On revalorise le métier en leur disant vous allez manager, là, vous serez sur votre tablette, vous allez piloter des drones qui vont s'occuper de la ferme à votre place. Donc on les dégage du travail, on essaie de les transformer en... Enfin, ils font semblant de les transformer en emplois de bureau.
Et il y a une parole qu'on entend régulièrement dans les réunions qu'on a les uns les autres. Quand quelqu'un prend la parole pour expliquer comment il s'est installé, on entend souvent que ce soit les gens qui se sont installés dans les années 70, la première vague un peu de néo-ruralité, puis ceux qui s'installent maintenant, on les entend souvent dire. Ah, quand j'ai dit à ma grand-mère que j'allais m'installer comme paysan, elle est restée me regarder, elle m'a dit « Mais tu te mets en danger, tu crains pour ta vie, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu veux faire des études, t'as un bac plus 5, qu'est-ce que tu fais là ?» On sent qu'il y a encore dans l'ensemble de la population, même y compris dans les classes populaires, une interrogation, une crainte peut-être de ce qu'est la paysannerie. Et alors là, ça tient aussi à l'image qu'on renvoie actuellement de ce qu'elle est, mais historiquement, elle est ancrée profondément dans c'est qu'on est contre le progrès. Voilà. Le progrès consiste à faire vraiment disparaître tout ce qui relève de la sueur, de la mauvaise odeur, des craintes, des difficultés, d'avoir le mal au dos et compagnie. Quoi. C'est ça.
Ouais, surtout aussi, qui a été énormément induit dans l'histoire, c'est ce sentiment de culpabilité. C'est assez énorme d'arriver à dire à une population qui est en mesure, pendant un laps de temps assez long, voire même très long, de produire son alimentation et de n'en vendre que l'excédent. Voilà, donc déjà la base est faite, quoi. D'arriver à leur dire, en fait, ce que vous faites là, c'est mal, puisque la société change et qu'elle part des campagnes parce qu'on lui propose moins d'efforts. Vous êtes coupable, vous, de garder la nourriture pour vous. Et là, ça devient fabuleux, en fait. Ça devient complètement dingue. Plutôt que de dire aux gens, bah, je sais pas, à un moment donné, essayez de trouver les moyens de votre alimentation collectivement, on va porter la faute sur un groupe d'individus. Je trouve ça terrible. Sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on fait un peu le tri quand même dans les gens qui ont fait du marché noir pendant la guerre, voilà, sous l'occupation. Et du coup, il y a toute une propagande qui est lancée en disant, voilà, on voit des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Donc voilà, ils sont dans les usines, ils y vont, quoi. Ils travaillent pour la modernité, ils travaillent pour l'avenir. Et à côté, on voit un paysan qui jette du grain à ses poules. Et là, dans l'article de propagande, c'est « Paysan, arrête de jeter ton grain, le travail a besoin de cette nourriture. » En gros, on est en train de dire aux paysans, là, ce que tu nourrir tes poulets, pour toi, c'est pas bien, parce qu'on le voit dans sa petite cour avec ses trois poulets. Ton grain, tu ferais mieux de l'envoyer pour le travailleur, pour qu'il ait du pain, quoi. Parce que la force de travail, elle est là-bas. D'accord. Et ça, c'est, je trouve ça terrible, dans ce moment-là de l'histoire.
C'est une pub
de l'État. Ouais, c'est propagande française, ouais. Ouais, tu peux retrouver ça dans un documentaire qui s'appelle « Adieu paysan ».
Pour lancer la chose là, moi je dirais que l'histoire du tracteur en France est indissociablement liée au recyclage de l'industrie de guerre de la Seconde Guerre mondiale
et de la première
guerre mondiale, effectivement, mais ça a commencé à véritablement exploser après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu d'abord des petites erreurs de dosage qui ont été faites dans le cadre du plan Marshall, où ce qui a été importé, c'est plutôt des tracteurs gigantesques avec un imaginaire qui ne correspondait pas au type d'agriculture et on va dire à la sociologie paysanne en France. Donc, mais après ces petites erreurs, ça a été vite corrigé, puisqu'il y a eu le pli a été pris de proposer des tracteurs d'entrée de gamme, enfin de petite taille, qui correspondaient effectivement aux outils de travail paysan de l'époque. Et ensuite, c'est par du coup l'amélioration continue de la gamme et puis la puissance galopante que les choses elles se sont progressivement déroulées. Avec initialement, évidemment, énormément de propagande visuelle, y compris en termes de puissance symbolique qu'apportait la question du tracteur et de cette modernité. Clairement accompagné la destruction des populations paysannes et des communautés paysannes. Et le tracteur a été synonyme transformation totale du régime énergétique de la production alimentaire, parce qu'on est passé à ce moment-là à peu près d'une production alimentaire quasiment autonome en raison de la photosynthèse à une production totalement dépendante des énergies fossiles. Il y a eu un total remplacement de l'énergie solaire par les énergies fossiles.
En France, il y a deux salons qui se tiennent quasiment simultanément, celui du matériel agricole, du machinisme agricole,
tous les deux ans,
et celui du matériel militaire. Quoi. Je ne sais plus quel nom il porte, mais quand tu vas, tu passes de l'un à l'autre, tu, a priori, tu ne sais même pas que tu peux... Enfin, il y a quelque chose qui le fond est le même. Le mode de pensée, la réflexion sur le monde, les rapports avec le monde sont du même type. Et en fait, on voit très bien, on le montre, que les pesticides sont nés des gaz de combat, que les tracteurs sont des chars de combat, que tout l'imaginaire de la puissance est né de la puissance développée par les armées, que c'est un type, quelque chose du même type qui relève de la conquête du monde, de la conquête des marchés, de la défense des frontières aussi d'une certaine manière peut-être, j'en sais rien, surtout de cette idée de la conquête de quelque chose, d'une ultime frontière quelque part. Et ça se traduit matériellement par aujourd'hui l'utilisation des drones qui sont les mêmes en agriculture que dans l'armée par exemple. Les logiciels sont les mêmes, les gens qui travaillent sont les mêmes. C'est du même type. Et quand on parle de complexe agro-industriel, on fait écho aux critiques que portaient des présidents américains après-guerre. Alors, je sais plus lequel, donc je vais m'abstenir de dire son nom, c'est Roosevelt, mais je sais plus lequel, qui faisait une critique forte du complexe militaro-industriel aux États-Unis en tant qu'il menaçait la démocratie parce qu'il s'était constitué en force autonome dans le pouvoir, dans les instituts de pouvoir, quoi, dans la séparation des corps constitués, tout ça. Il y avait tout d'un coup une force terrible, complexe militaro-industriel aux États-Unis, même d'ailleurs qu'il y avait en Russie, probablement, en URSS, pardon. Et nous, on fait le constat qu'il existe un complexe agro-industriel qui a le même type, et c'est logique, puisque le monde, l'imaginaire, le monde qu'il transporte est le même.
Moi, je voulais rajouter, pour peut-être clarifier ce qui peut être ambigu dans la question comme c'est posé, on identifie le tracteur comme un symbole et un levier fort de l'industrialisation de la machine, mais ça ne fait pas de nous des anti-tracteurs dans l'absolu aujourd'hui en 2021. Enfin, ça, je pense qu'il faut l'ajouter pour ceux qui vont écouter. On arrive à parler avec des gens qui utilisent un tracteur. Voilà. Et le livre ne s'adresse pas qu'aux gens qui n'ont pas de tracteur. Voilà. D'ailleurs, ici, il y a des paysans qui ont des tracteurs. L'idée est bien de voir quels ont été les impacts de la puissance technologique et machinique en agriculture et dans quelle spirale, voilà, quelle dynamique ça a, etc., etc. Mais de ne pas juger un objet en soi.
Ouais, pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'autonomie, quand tu as un tracteur, tu dois être capable de mesurer la dépendance que tu as avec ce tracteur et de savoir si tu es capable de l'accepter ou de collectivement, individuellement, de le réparer, ton tracteur tout simplement, par exemple, tu vois, ou pas, avec de qui tu dépends. Encore faut-il qu'on te laisse les moyens, donc, de la démocratie, de faire cet exercice-là. On reparlera de ça tout à l'heure, puis si on reparle de l'alimentation, le lien va être fait. L'absence de démocratie dans la production se retrouvera tout à l'heure dans les choix, l'alimentation qu'on est amené à faire, quoi. Ou pas à faire, justement.
Et l'absence totale de démocratie dans... le choix même du type de technologie agricole, du coup, s'illustre par ce qu'est devenue la production agricole, c'est-à-dire une production extractiviste, une production minière, en fait, de matière première, qui est ensuite séquencée pour être vendue au meilleur profit.
On ne sait même pas si on peut parler de choix avec le tracteur, tant l'imposition du tracteur, la puissance, l'augmentation en gamme, c'est faite par des politiques publiques, d'incitation fiscale, le remembrement. Enfin, il y a énormément d'impact. Ça a été très volontariste, la mise en place du tracteur. Donc, on ne peut pas faire porter sur les paysans qui y sont allés à l'époque, qui ont... voir qui sont allés à pieds joints, on ne peut pas faire porter sur eux la responsabilité. Quoi. Tout a été fait pour les y inciter. Quoi. Bon, alors on est lucide désormais là-dessus, mais c'était plus compliqué de l'être dans les années 60.
Oui. En parallèle, un peu, il y avait cette phrase qui m'a... Si quelqu'un avait envie de rentrer, vous en avez déjà, vous êtes rapproché, c'est la chimie. L'optimisation est indissociable de la mécanisation. C'est quand même ça,
mon petit. Ouais, Manu.
machinisation est indissociable de la mécanisation.
Le recours à des dizaines et des centaines de molécules pesticides permet un contrôle sanitaire de surface toujours accru. Et les dites surfaces toujours accrues doivent du coup être travaillées par des machines qui en ont la puissance. Et en fait, c'est une logique qui s'auto-entretient. Plus le tracteur, plus la puissance machinique déployée sur une exploitation est importante, l'agriculteur perd le contact sensible finalement avec ses cultures, et plus donc le suivi sanitaire de celle-ci est impossible et doit être finalement assuré par des logiques préventives et qui passent par le recours à la chimie. C'est une boucle qui s'auto-entretient et qui sans fin en fait.
Oui, et de même que la puissance entraîne effectivement cette distanciation, mais la puissance elle est aussi facteur d'appétit pour amortir sur beaucoup plus de surface des investissements qui sont systématiquement galopants. Autrement dit, à chaque rachat de tracteur, la tentation sera grande de l'amortir sur beaucoup plus de surface, y compris sur celle de ses voisins. Et ce sont des phénomènes aujourd'hui que l'on constate, hein, et puis d'ailleurs qu'on signale dans le rapport complémentaire là, d'observation sur les technologies agricoles, c'est l'explosion sidérante des entreprises de travaux agricoles. C'est-à-dire d'entreprises qui concentrent des outils d'intervention sur des fermes dont les propriétaires ne font recours qu'à des prestataires pour cultiver les surfaces. Surface étant devenue par la force des choses, puisque quel sens ça a à ce qu'un entrepreneur de travaux publics, vienne entretenir des cultures et vienne faire cette extraction minière autrement que les intérêts partagés des deux parties. Mais sinon, en fait, il n'y a plus d'humain dans cette situation.
Et pour être complet, il faudrait rajouter les biotechnologies qui vont avec, hein, sont aussi indissociables, la zootechnie, tout ça. Et peut-être pour aller encore un petit peu plus loin, ces trois leviers-là sont les leviers de deux mêmes buts. Le but de baisser continuellement le prix de l'alimentation. Cet appareillage, il est au service d'un but, faire de plus grands volumes avec de moins en moins de gens qui travaillent dessus pour mécaniquement obtenir des rendements. Voilà, c'est la même histoire depuis tout le temps. Mais là où ça rajoute une couche de réflexion dans le fait qu'on parle bien de politique là, agricoles qui ont donné ça et non pas de la logique économique du secteur, c'est qu'aujourd'hui, depuis ce fameux virage là de l'après-guerre, les gains de croissance, les gains de productivité, ce qui est recherché dans la compétition économique, ce n'est pas d'être compétitif d'un point de vue agricole, c'est d'être compétitif dans la technologie agricole. Quand l'Europe dit qu'il faut qu'on rattrape notre retard sur notre compétitivité agricole, en fait, ils disent qu'il faut qu'on investisse dans la technologie agricole. Ils disent pas on va soutenir les agriculteurs, les prix. Non, ils disent il faut réinvestir dans l'industrie de la chimie, il faut réinvestir dans l'industrie de la machine ou dans la biotechnologie. Parce que là, il y a des gains de croissance incroyables qu'on pourra aller vendre ailleurs beaucoup plus facilement qu'aller vendre l'alimentation. Et ce truc-là a été décidé, en fait. Ça fait partie de la logique minière, en fait. Ça veut dire... la valeur sera plutôt créée et captée sur l'outil qui permet d'extraire et puis sur l'amont de ce qu'on va faire de ce minerai, mais pas du moment de la production. Et du coup, le producteur devient juste finalement un fournisseur d'un marché qui lui est extérieur et où la valeur se fera à côté de lui, et un utilisateur, un client forcé d'une industrie où il va toute la valeur va partir dans l'achat de ces matériels.
Et ça s'illustre par exemple avec le ministre de l'Agriculture pour sa première sortie pour annoncer le plan de relance agricole post-Covid qui va l'annoncer dans une usine de robots, de pulvérisateurs connectés ou de...
Okay. Le piège est quand même fabuleux. C'est que quand... on utilise des intrants, voilà. On utilise cette chimie, et que la population ou qu'un mouvement social demande un changement réel. Du coup, l'industrie s'adapte et dit pas de problème. On a trouvé autre chose. On a la manipulation génétique sur les semences, par exemple. On efface toute l'histoire de l'agriculture quant à faire en sorte qu'une céréale s'adapte à un sol. On va adapter la céréale à ce qu'on veut. Voilà, point. Du coup, on croit prendre une sortie, mais ce n'en est pas une du tout. On a remis une pièce dans la machine, c'est génial.
Et ces industries fonctionnent avec, ensemble. C'est-à-dire que, ça c'est pour achever hein, le panorama complotiste, hein. c'est que vraisemblablement il y a des ententes, voire même des constructions industrielles qui font que pour utiliser tel produit, on va devoir utiliser la machine qui est vendue avec. Et du coup il y a vraiment des stratégies commerciales de capter cette demande là agricole pour l'achat, en fait de pas avoir le choix. Il y a très peu de, on va acheter au même endroit et telle semence ne pourrait être utilisée qu'avec telle machine et avec tel produit chimique derrière. Voilà, et là où ça devient intéressant, c'est-à-dire la question n'est plus du coup je choisis individuellement de passer une grelinette ou je choisis de passer un tracteur, ça devient si je souhaite rentrer en désescalade technologique, si je souhaite faire différemment individuellement, eh ben, je vais me rendre compte que ce truc-là était dans un système économique. En fait, je ne pourrais pas vendre, produire de l'alimentation au même prix que produit l'industrie. Et du coup, là, on voit bien que ça devient une question socio-économique, politique, de choix collectif, et non pas un choix individuel d'adorer la technologie et d'aller là-dedans, ou de détester la technologie et d'acheter un cheval. Voilà, ça, et là, ça devient une question collective et politique et intéressante.
Je ressens le besoin de faire une pause.
C'est possible ?
Ouais, peut-être Javier aussi.
Ce qu'on a décidé, c'est d'arrêter de se raconter des histoires. Et une des histoires qu'on se raconte, c'est à propos du néolibéralisme, en se disant que dans l'état actuel des choses, on va réussir à se tirer d'affaire, quel que soit le paysage économique. Et une des choses que tu nous as montré, c'est qu'il était absolument impossible de tirer nos affaires comme on le souhaitait dans un cadre comme ça.
Oui, voilà. Ouais, oui. On parle beaucoup des accords de libre-échange en cours de négociation intercontinentaux, là, le CETA, l'accord avec le Mercosur. On évoque bien peu ce qu'est la zone de libre-échange la plus radicalisée au monde, qu'est le marché unique européen, et qui a été imposé d'ailleurs par le traité de Lisbonne, enfin qui l'a radicalisé, qui l'a formalisé, qui a complété par plein d'articles. Ce traité de Lisbonne, en France, il avait été soumis à ratification par un référendum. Les Français l'avaient largement rejeté, et c'est deux ou trois ans après que par voie parlementaire, il a été finalement imposé par-dessus la décision populaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans ces textes ? D'abord, l'affirmation que les prix, tous les prix, sont parfaitement libres au sein de ce marché unique, que les marchandises circulent avec une liberté absolue, alors même que les coûts de production en raison des droits sociaux qui sont très 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 différents d'un bout à l'autre de ce marché unique européen, les droits sociaux et les niveaux salariaux, ce qui fait que ça crée des distorsions de concurrence extraordinaires. Alors, souvent, le mouvement social en France en appelle à une harmonisation par le haut de la protection ssociale, des droits sociaux, des droits fiscaux. Mais en réalité, ce dont on parle jamais, c'est que c'est interdit dans ce traité de Lisbonne. L'article 153 fait interdiction au Parlement européen et au Conseil des États membres d'engager quelques démarches collectives que ce soit qui auraient pour résultat d'harmoniser socialement ou fiscalement les droits européens. Ce qui fait qu'en fait, ce texte, il organise les distorsions de concurrence, il organise une compétition qui amène finalement, progressivement, les productions, pour parler des productions agricoles bien sûr, à migrer là où les coûts, en raison du droit social, etc., sont les plus faibles. Et ce phénomène est encore accentué par la politique agricole commune, puisque cette politique agricole commune, c'est un règlement commun, mais qui laisse beaucoup de liberté à chacun des États membres pour l'adapter à ce qu'il compte faire de son agriculture. En conséquence de quoi ? Pareil, il faut que je donne un exemple, en fait. Les niveaux salariaux sont beaucoup plus faibles en Espagne qu'en France.
ce qui crée une distorsion de concurrence très forte sur les fruits et légumes, puisque c'est des productions qui requièrent beaucoup de main-d'œuvre. Et en plus de ça, l'Espagne utilise la PAC, la politique agricole commune, pour soutenir, pour renforcer encore cette position de force en raison de son droit social qui est inférieur au droit social français, renforcer encore cette position de force dans le marché unique en mettant toutes les billes, tous les fonds, une grosse partie des fonds de la PAC sur ces productions-là. Alors même que, parallèlement, la France refuse depuis des années et des années et des années à soutenir d'un seul euro sa production de fruits et légumes. Il en résulte bien évidemment ce qu'il doit en résulter, c'est-à-dire la migration progressive de la production de fruits et légumes vers, par exemple, l'Espagne, mais aussi vers d'autres pays avec des droits sociaux et des niveaux salariaux beaucoup plus faibles qu'en France, comme la Pologne, par exemple.
Et donc, à contrario, la France va, en soutenant son secteur de la production laitière, va concurrencer de façon, des distorsions de concurrence totales, la production laitière espagnole.
Ah oui, voilà, parce que...
Voilà, et ça se fait pas au bénéfice des producteurs, des éleveurs laitiers.
Ah ben bien sûr, alors c'est des compétitions qui sont croisées, bien évidemment. Bon, il se trouve qu'en France, on a des verts pâturages en quantité, ce qui fait que le coût de production du lait est inférieur à la situation, pour reprendre le cas de l'Espagne, à la situation espagnole, puisque l'aliment est beaucoup plus de production industrielle, il y a beaucoup moins de pâturage et le coût de production est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qui se passe ? Progressivement, la production laitière en Espagne s'effondre, et de la même manière que les rares productions légumières qui arrivent à se maintenir en France face à la concurrence espagnole, ben, c'est par le moyen du gigantisme industriel et l'industrialisation à marche forcée. Et de la même manière, je crois que dans les dernières années, il s'est construit en Espagne une usine de 20 000 vaches, une usine laitière de 20 000 vaches, dont l'idée était de faire des économies d'échelle, même ça on en reparlera, les économies d'échelle en agriculture. Mais l'idée, en tout cas, ou l'artifice argumentaire pour faire accepter cette monstruosité que sont des usines avec 20 000 vaches, c'était de dire il faut absolument, pour rester compétitif face à l'offre française, et ben finalement aller dans le gigantisme. C'est-à-dire que voilà, non seulement il y a une migration des productions en fonction finalement des stratégies des différents pays pour maintenir un peu de leur production là où ils s'imaginent être forts, mais en plus de ça, eh ben ça pousse à l'industrialisation généralisée et dans tous les pays.
Et cette baisse de prix qui en résulte des productions, elle ne fait pas augmenter les marges des producteurs. Toute cette baisse de prix est absorbée par l'amont, par l'aval de la filière, donc par la grande distribution, par les producteurs de machines, d'intrants, de semences, d'engrais. On a des éleveurs laitiers en France qui sont dans situation d'extrême précarité, alors qu'ils sont les plus compétitifs et qui laminent par ailleurs les éleveurs laitiers d'autres pays, quoi, qui sont moins concurrentiels. Ouais. Donc voilà, c'est pas les éleveurs qui en profitent de ça, c'est absorbé par l'amont de la filière.
Oui, alors il y a plein de phénomènes qui sont liés à cette logique de compétition, notamment le fait que finalement plus les coûts de production plus il existe de moyens pour comprimer les coûts de production, plus les industries de l'aval, de la transformation ou de la grande distribution peuvent se livrer une guerre sans merci, de laquelle résulte une baisse des prix alimentaires qui intéresse beaucoup le pouvoir. Puisqu'avec les politiques néolibérales en place depuis les années 80, on assiste à un creusement des inégalités économiques massif dans nos sociétés. Et il est, pour le pouvoir, pour les classes dirigeantes, il est absolument indispensable de pouvoir maintenir une alimentation le plus bon marché possible, bon marché entre guillemets bien évidemment, de sorte à entretenir la paix sociale. Si on veut pouvoir continuer à piller la population comme le néolibéralisme l'opère, il faut néanmoins, pour que ça puisse durer un temps soit peu, lui assurer une assiette pleine. Sinon, il se passe ce qui s'est passé au Maghreb au début des années 2010. Du fait de la spéculation et de la hausse du prix du pain, les populations se sont révoltées avec les conséquences en chaîne qu'on connaît. Ça, croyez-moi, les dirigeants européens l'ont bien compris.
Et puis cette production industrielle, au final, ne s'adresse même plus aux classes populaires. Elle s'adresse à un milieu de gamme avec l'aide alimentaire qui va venir combler. Elle n'est même plus capable de nourrir correctement, avec l'effondrement des salaires, les classes populaires.
Mais putain, mais il y a plein de magasins bio pourtant.
Comment du coup, comment on peut expliquer que ce constat-là n'a pas été fait? Parce qu'il faut reconnaître que quand tu recherches les revendications, tant du côté des corps intermédiaires que sociaux que des organisations professionnelles comme les nôtres, ce constat-là, il est refusé. La plupart d'entre nous, on continue à penser nos transformations dans le modèle européen. Les rares se situent en disant non, ça va, l'Europe, il faut les cadres de la nation, il faut les repenser, si on parle d'autonomie, de souveraineté, bon, on en parle un peu moins, mais d'autonomie comme ça nous concerne nous. Tout à l'heure, on sera amené à discuter entre nous de quelques propositions importantes, fortes qu'on a pu faire pour se sortir de ce marasme intellectuel, là. Eh bien, il y en a quelques-unes qui vont supposer qu'on s'écarte résolument de ce libéralisme, de cet ultra-libéralisme, et des cadres européens de cet ultra-libéralisme. Alors, ça sert d'aller manifester, comme on l'a fait tous, contre les traités du Mercosur ou les traités du TAFTA. On oublie d'ailleurs en général les traités qu'on impose aux pays plus pauvres quand on manifeste contre le libéralisme. Mais l'analyse du marché même dans lequel on est, nous nous a échappé. C'est un constat qu'on a fait. C'est une des histoires qu'on a arrêté de se raconter. Parce que c'est encore en partie ce qu'on a voulu faire, c'est arrêter de se raconter des histoires tout de même.
Bah ouais, puis ouais. Je crois que ça fait du bien en fait.
Ouais, ça fait beaucoup de bien.
Quand en fait tu reprends les choses, plutôt que de dire, ah bah du coup, par exemple, ouais, la PAC, là, c'est un nouveau round de négociation. Bah cool, il y aura peut-être des entrées, allez, on va écrire des amendements et tout ça, et puis on va se mettre ensemble pour réfléchir à... En fait, la PAC, c'est la béquille du complexe agro-industriel. Donc la question, ce n'est pas de la réformer. La question de la réforme de la PAC, c'est un... du coup, je sais pas, comment s'appellent les roues, là, où on met des hamsters dedans pour les occuper?
Des roues hamsters.
Des roues hamsters.
Exactement.
Voilà, c'est pas mal.
On a des idées de ne plus avoir de tronches de hamsters.
Ouais. Parce que là, du coup, aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 paysans. Ça va, tout le monde, si je dis 400 000 paysans?
Ouais, ça va le faire.
Ah, là, okay. On dirait bien sur roue hamster. Faut se poser la question de... Après quoi court le hamster? C'est toujours après quelque chose à manger, mais en l'occurrence, pour nous, c'est plutôt du pognon, puisque tu parlais de la PAC. Mm. Là, le ticket, c'est ça. Tu le vois, le billet de 100 balles? Jusqu'à l'épuisement, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, en fait.
Jusqu'à l'épuisement, ben justement, voilà, 400 000 paysans, pouf, on part de là. Normalement, si tout se passe bien, comme prévu, dans 10-15 ans, il y en aura 250 000.
En France.
Hein. C'est implacable. Voilà, quand, du coup, il y a quelques décennies en arrière, c'était plusieurs millions de travailleurs qui, du coup, consacraient leur travail à la production de notre alimentation, de notre commun et de notre fait alimentaire. Donc là, pouf, 400 à 250 000, on peut assez facilement imaginer que, du coup, de fait, la surface par tête de pipe, elle va à nouveau exploser. Voilà, je sais plus, on en est à 30 hectares par personne. Ouais, 30 hectares, c'est plus que l'énorme parcelle qu'il y a là. Voilà. Donc, c'est pas à la grelinette qu'on le fait, très clairement, ni à la bêche. Voilà. Ça se fait avec d'énormes capacités technologiques. Et cette boîte noire, toute particulière, cette question absolument impensée et absolument pas démocratique de notre niveau technologique, eh bien, est, de notre point de vue, le pivot indispensable, le moyen, l'arme de guerre de destruction des savoirs et des savoir-faire paysans, et qu'il nous faudrait très certainement penser. Nos limites.
Non seulement on est loin de la science-fiction, mais on ne peut même pas y échapper. Quoi. 270 000 paysans à l'horizon de 10 ans d'ici, c'est nécessairement cet état de la production. On ne peut pas se passer de pesticides, on ne peut pas se passer de robots quand on a 270 000 personnes à travailler pour produire la nourriture de 65 000, peut-être 70 millions, 65 millions, peut-être 70 millions de personnes, cet horizon-là. Il y a quelque chose qu'il va falloir démêler, qu'on peut aborder sur les propositions qu'on va faire après.
Du coup, si on devait classer, là je me dis, si on devait classer grossièrement, disons, allez, dans 10-15 ans, il y a 250 000 paysans, ou agriculteurs, ou agri-managers. Mais du coup, si on devait catégoriser ça, il y aurait quoi? Il y aurait la production énergétique, avec les panneaux solaires et la méthanisation.
Ouais.
les céréales, l'élevage à fond la caisse, mais l'élevage industriel, quoi, l'élevage sans paysan.
Ouais.
Et puis après, il y aurait une incroyable diversité d'agriculture et de petites agricultures, mais pour les marchés de niche. C'est-à-dire
qu'il y a des légumes. Hein.
Ah bah oui, carrément.
Mais on sait que c'est déjà ce qui est là. Hein. Donc ça serait l'aggravation de ce qui est
déjà
là.
Voilà, mais okay, disons, si on voulait vraiment décrire ce qui va caricaturalement arriver.
Des biocopes plus grandes.
Ah ouais.
Et automatisées.
Et automatisées.
Ah ouais, des biocopes sans caissier.
Ouais, mais non, mais on peut en rigoler, on en a pas mal rigolé, on peut en rigoler, mais en fait, c'est proprement aberrant, parce qu'on vient tous, nous, d'une production de ce type-là. Mais on a produit sous signe de qualité, on continue à le faire, et on ne regrette pas de l'avoir fait. On fait simplement le constat que ça n'a servi à rien, au contraire, peut-être même qu'on a même rendu service au modèle industriel en lui servant de complément de gamme. C'est même pas peut-être. Aujourd'hui, on est à peu près certain de ça. C'est-à-dire que les moyens qu'on s'est donnés pour survivre, au lieu de se raconter qu'on était en train de faire de la transformation sociale et même la révolution, quand il y a 30 ans on en parlait comme ça, le constat qu'on fait, c'est qu'on a servi de complément de gamme, on a servi de cogestion à une politique publique qui était assurée par un... Alors on fait un constat à l'espandre, bien sûr, hein, donc il va falloir qu'on parle de choses aussi, vous êtes bien d'accord que sinon on va tous arrêter...
C'est pas une encyclopédie des horaires non plus. Hein,
oui, voilà, bon, il faut quand même reconnaître aux niches qui ont émergé d'avoir sauvé un certain nombre de paysans momentanément, d'avoir pu faire, par exemple l'agriculture biologique a pu faire la démonstration qu'on pouvait bel et bien, comme il n'y a pas bien longtemps en fait, continuer à produire sans pesticides. Et bon, ça a quand même un intérêt, ça nourrit un débat public potentiel, mais le problème, c'est que ce cahier des charges là, d'agriculture biologique qui a permis à une offre et une demande qui désirait communément se passer de pesticides de se rencontrer, et ben finalement dans la dynamique de marché dans laquelle ça s'inscrit, et ben perd toute potentialité de transformation au niveau systémique. Le pire en réalité, c'est que maintenant que, pour prendre le cas de l'agriculture biologique, maintenant qu'elle est connue et reconnue, et ben maintenant elle sert
dans le monde entier.
Oui, non mais oui, absolument. Elle sert désormais aux États pour renvoyer finalement les transformations de l'agriculture et de l'alimentation à des choix individuels. Mais comment ça, changer de politique agricole? Mais monsieur ou madame, vous aviez bien le choix en tant que producteur de vous engager dans l'agriculture biologique. Et vous, monsieur ou madame la consommatrice, vous n'avez pas un rayon d'agriculture biologique dans votre supermarché? Qu'est-ce que vous venez de vous emmerder à vouloir changer le système agricole et alimentaire alors que vous êtes libre, vous avez le choix?
Il y a même des tucs bio.
Oui, bah oui.
Donc on peut faire la fête.
Il y a une richesse dans ces alternatives, une richesse de méthodes agronomiques qui est incroyable. Mais une méthode agronomique ne fait pas un projet politique.
Absolument.
Et il y a souvent cette confusion entre faire une philosophie de vie d'une méthode agronomique.
Technique, tu veux dire?
Technique.
En fait, on est incroyablement optimiste, je pourrais dire. Parce que, du coup, de vouloir faire action collective, de céder, en refusant de céder à, bon, bah, finalement, on va partir en rando, on finira bien notre existence sympathiquement comme ça, mais c'est plutôt de regarder implacablement, en fait, comment collectivement nous pouvons tirer le son et présenter l'atelier paysan, notre travail conséquent, colossal sur les technologies paysannes dans quelque chose d'un petit peu plus vaste. Sinon c'est la garantie de se taper la tête contre les murs. Nous on forme 600 ou 700 paysans par an. Voilà, je dirais pas qu'on en accompagne à l'installation 600 ou 700, hein, très clairement, je pense que c'est beaucoup moins. C'est quelques centaines probablement. Mais quand il y a 400 000 paysans aujourd'hui, une perspective de 250 000 dans 10-15 ans, et qu'on a été nourri à un imaginaire auquel on croit fort, est peut-être moins fort après l'écriture du bouquin, d'un million de paysans. C'est-à-dire qu'il va en falloir en installer 50 à 100 000 de plus par an pendant les 10, 15, 20 prochaines années. Mais en plus, du coup, moi, ce qui m'a épaté, c'est que j'ai dépassé cet horizon un petit peu totem de 1 million de paysans. Mmh, mmh.
En me disant d'être réformiste.
Ouais. parce qu'en fait, si tu fais les calculs, vraiment, si tout le monde avait la possibilité de se nourrir de l'agriculture paysanne qu'on revendique, bah, du coup, c'est probablement 10% d'une population qui devrait se consacrer à la production de notre alimentation, quoi. En fait, si tu fais les calculs avec tous les systèmes qu'on connaît bien, qui ont l'air solides, épanouissants, autonomisants pour les humains qui y travaillent, en fait, si tu fais le compte, compte combien il faudrait de maraîchers biologiques diversifiés, combien de paysans boulangers, combien de vignerons qui vont bien, etc. Mais... C'est-à-dire qu'ils nous nourrissent, nous, pas ceux qui en sont privés. Bah, et en falloir un paquet de paysans et de paysannes. Ça tombe bien, c'est plutôt pas mal, non ?
Et c'est pas trop compatible avec le système actuel, quoi. On fera pas ça dans des petites marges.
C'est pas prévu, en tout cas, pour l'instant.
La méthode des petits pas s'avérera compliquée.
Il faut pas qu'on fasse la même chose en 10 fois plus grand. C'est pas cet imaginaire-là non plus. Ah bah non. Ça veut dire que ça va changer des choses. Et dans la façon dont on prend les décisions, dans la façon dont il va falloir déposséder des industries entières, en fait, de leur droit là d'exercer leur pouvoir, comme tu le disais, de façon absolue, là, il va falloir passer par là. C'est pas juste faire ce qu'on fait déjà à plus. Et ça, je pense que c'est un cliquet qu'on a dépassé, qui est dur à se dire, hein, parce que déjà ce qu'on a à faire, c'est déjà pas facile, et du coup, il faut le faire encore plus grand, c'est déjà pas facile, mais là, il faut faire quelque chose de plus, voilà. Et je pense par contre qu'une fois qu'on l'a dit, c'est libérateur, et c'est peut-être ce qu'on peut témoigner là des 3 semaines, ça fait que 3 semaines que le bouquin est sorti, et un des retours principaux, c'est ça, quoi, c'est, clac, ça libère quelque chose là, et on arrête de se dire qu'on n'est pas bon, qu'on est trop petit, ou qu'on est insignifiant. Voilà, on prend conscience qu'il y a un autre boulot, qu'on ne peut pas faire à l'échelle de sa ferme, et que, ouais, qui va être nécessaire. Et c'est en ce sens-là où c'est optimiste, je trouve.
Et cette critique qu'on porte, on la porte sur nous-mêmes aussi. Ouvrant un atelier paysan dans chaque département, en mettre partout, que le monde merveilleux adviendra, quoi.
Un petit peu quand même.
Un peu quand même. Peu,
ouais. Oui, voilà, ça se la pète un peu, quoi. Oui.
Faut essayer tout de même, oui. Ouais, parce que... Bon, on va aller jusqu'au bout du cruel constat. On parle de disparition de paysans, on parle de la puissance du modèle industriel qui s'exerce sur les paysans, mais de l'autre côté, le constat qu'on a fait... Je ne sais pas ce qu'il en est, puisque vous êtes espagnol, je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne, mais en France, il y a 3 ans, 4 ans, il y avait 3,5 millions de personnes qui bouffaient à l'aide alimentaire quotidiennement. Il y avait 8 millions de personnes que l'État, alors là c'est des chiffres de l'État, du ministère des Affaires sociales, que l'État considérait comme en état de précarité alimentaire constante, c'est-à-dire... prêts à basculer dans l'aide alimentaire, dans la certitude de leur sort, leur capacité à manger. Et nous avions estimé, à différents sondages qu'on avait pu faire, que l'insatisfaction alimentaire, c'est-à-dire déclaratif, tu interroges quelqu'un ou tu fais le constat de ce qu'il souhaite manger en rentrant dans le supermarché et ce qu'il y a dans son caddie quand il en ressort, tu fais... la différence, tu lui demandes d'où ça vient, cette insatisfaction alimentaire-là, elle concerne à peu près 17 millions de personnes. Ça, c'était il y a 4 ou 5 ans. L'année dernière, juste fin 2000... Alors, pas que je me trompe d'année, parce 19. Que là, avec une année blanche...
Fin 2019.
Ouais, donc, fin 2019, le ministère des Affaires sociales sort une étude, à laquelle on avait participé, qui dit l'aide alimentaire quotidienne, c'est 5,5 millions de personnes. La précarité alimentaire, c'est 10 millions de personnes. Et l'insatisfaction alimentaire, ça, ils n'ont pas cherché, c'est très compliqué. Enfin, ça leur semble à eux très compliqué à caractériser. Et puis, écoute, une année catastrophique de tout point de vue, mais une année inhumaine, celle de confinement qui vient de se succéder, là. Et les chiffres qui arrivent, qui sont donnés par le gouvernement pour certains, par les associations caritative de l'autre, sont à 7 millions et demi de personnes quotidiennement nourries par l'aide alimentaire, 12 millions pour les chiffres concernant la précarité alimentaire, et pour ce qui en est de l'insatisfaction alimentaire, on est arrivé à 26, voire 27 millions de personnes qui déclarent ne pas manger ce qu'elles souhaitent. Voilà, ça, c'est un constat. Constat, tu vas me dire...
Plus de 10%, plus d'une personne sur 10 va à l'aide alimentaire.
Quasiment. Et on sait de l'histoire qu'on a pu dresser, alors parce que tu vas me dire, qu'est-ce qu'a à faire un paysan et une organisation professionnelle de ces chiffres de l'aide alimentaire? C'est pas notre affaire. Ça fait pas partie de notre histoire, nous. C'est pas ce qu'on nous a enseigné quand on s'est installé. C'est pas ce dont on parle entre nous, puisque... Et il a fallu... Enfin, il faut bien qu'on se dise que notre constat de notre appauvrissement et de la nécessité d'en sortir, on va pas y arriver tout seul, c'est ce qu'on vient de faire. Et de chercher un mouvement qui va nous aider à sortir de ce constat d'impuissance, c'est se dire notre appauvrissement, il est lié malheureusement à un appauvrissement de l'ensemble de la population par son alimentation. Nos modes de production, la manière dont on achète des outils, dont on capitalise, ce qu'on fait de la terre, le comportement agressif qu'on a entre nous, se retrouve, on va faire de la grande philosophie, se retrouve dans l'assiette de la population et divise la population en deux. Ce qu'on constatait tout à l'heure, il y a quasiment 80% de la population, un peu moins, 70% de population qui ne bouffe que de la nourriture industrielle. La boulotte de l'année, tous, la nourriture industrielle, voire ultra transformée. Quand on parle de nourriture industrielle aujourd'hui, c'est ce qui remplit les gens. C'est ce qui est la cause des maladies alimentaires qu'on constate, qui vont devenir de plus en plus graves. Et là, on fait un constat, on se dit un jour, si on a des alliés, si on veut transformer réellement le modèle de production alimentaire, il va falloir qu'on s'adresse à ceux qui... la consomme, donc il va falloir qu'on s'adresse à ces gens-là et qu'on s'explique. Alors, je vous laisserai développer ça parce que qu'on s'explique. Nous sommes appauvris, vous êtes appauvris, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Ça, c'est des choses que jusqu'à présent on nous a interdit de faire. Il faut reconnaître qu'on n'avait pas trop malin parce qu'on s'est interdit de le faire aussi, sans doute nous-mêmes. Donc, il faut qu'on remette ça sous le tapis.
Sont-ils conscients que c'est délirant? Je dirais non. Je pense qu'ils sont inconscients, vraiment, totalement, et inconséquents dans leurs investissements, et que c'est une expression d'une idéologie, qu'on pourra toujours réparer les dégâts qu'on fera, parce que même si on ne sait pas comment on va faire aujourd'hui, et qu'on a peut-être conscience que ça ne marche pas là, bah, demain on va trouver la solution qui va faire que... Et donc là, on la voit très bien arriver. Là, la solution de demain, c'est l'électrique. Donc, on va passer à des tracteurs électriques, produire des intrants avec de l'électricité, etc., etc. Mais c'est une forme de délocalisation du problème. Ça fait que repousser le problème, ça ne change rien au fait que ce rendement-là, de toute façon, produit quelque chose et qu'à un moment donné, il y a de l'énergie limitée. Et il faudrait parler, je sais pas moi, des taux d'appauvrissement des sols, par exemple. Il y a une catastrophe qui nous pend au nez, là. Au bout d'un moment, c'est qu'on est en train de stériliser les sols, pour de vrai. Des sols qu'on n'arrivera peut-être pas à rendre vivants. On est en train de faire mourir les sols massivement, il y a des vrais dangers massifs. Et cette conscience-là, je pense, n'est pas présente. On a toujours l'impression, ils ont toujours l'impression, ou ils laissent faire penser qu'on arrivera à réparer toujours plus tard. C'est ça la fuite en avant.
Toi, Hugo, en fait, je dirais que, en fait, si, ils ont parfaitement conscience, mais ce n'est pas un problème.
Ils sont totalement cyniques.
Ah ouais,
je crois à la solution technologique qui viendra.
Non, mais même, le coup. Des choses et cette manière d'être généralisé au monde n'est pas un problème. Donc, sinon, il en sera autrement.
Il y a un indicateur de ce cynisme-là. C'est le taux de recrutement des forces de l'ordre. Travailleurs sociaux y compris. Travail social y compris. Et la libéralisation dans le travail social en plus. Et la libéralisation dans les forces de l'ordre. Tu vois, ça, t'es en train de grimper en flèche dans tous les pays. Donc ça veut dire que nos gouvernements... Ils ne sont pas si cons que ça, ils savent à peu près ce qui leur pend au nez. Ce que tu disais, les révoltes de la faim, par exemple, en sont preuve. Je pense que l'extraordinaire mouvement social des Gilets jaunes qu'on a eu en France, là, dont, en tant que paysan, on a eu un peu de mal à analyser et à comprendre ce qui s'y passait, a été quand même un coup de semonce qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et je suis, euh, Alors, on les voit. Alors, bon, je ne sais pas si ça tient la route, ce que je vais te dire, mais en 1789, quand on a fait le constat de notre impuissance, il a fallu chercher.
T'avais quel âge ? Ah.
Ne me désespère pas encore plus. Il a fallu chercher les causes de cela, les causes de cette impuissance. On y a mis un nom qui s'appelait
Les privilèges.
Les privilèges, allons-y. Et ceux qui détenaient ces privilèges, on n'a pas eu trop de mal à les trouver, ils étaient au bout du champ. Puisque c'était, leur propriété était là, il fallait qu'ils y soient plus ou moins. Bon, ils étaient un peu loin, plus loin que le bout du champ. Mais on les a trouvés. Il y en a quelques-uns qui ont, je le regrette, perdu leur tête dans l'affaire. Mais on pouvait mettre la main dessus, mettre des noms d'abord et mettre la main dessus. Aujourd'hui, ceux qui sont détenteurs de ces privilèges, tu les connais pas. Ils sont anonymes et ils sont délocalisés. Ils ne font plus partie de notre société. Et ça, ça devient un problème.
Ils sont hors de portée de guillotine.
Ouais, alors, là, tu vois, très bien que tu le formules comme ça. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai dit une chose pareille. Non, mais c'est, sans rire, c'est quand même important que, de se dire qu'on peut, comme on ne pourra pas mettre la main dessus, on ne pourra pas non plus mettre la main sur les politiques qui sont faites, on préfère naturaliser l'affaire, on préfère dire que bah oui, ce qui nous arrive finalement, c'est comme la neige, c'est comme la pluie, le mauvais temps, tout ça, ça fait partie de nos vies, puis on n'a pas trop à se plaindre et on va essayer de trouver là-dedans le chemin qui ira, qui nous conviendra à nous. Tout ça simplement parce qu'on ne voit pas l'horreur et ceux qui en profitent. Puis on en a peut-être notre petite part aussi, quand même. Hein. Parce que gagner une retraite de 1000 balles par mois comme paysan, après avoir travaillé 40 ans, c'est quand même le bonheur. Quoi. Donc il faut pas qu'on a un peu de bonheur sur Terre. On ne va peut-être pas tout défaire le bonheur qu'on a quand même. On ne va pas prendre le risque de tout défaire. Non, mais pour être plus sérieux, je pense qu'il y a une grosse différence là-dedans. C'est qu'ils se sont délocalisés. Ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui détiennent des privilèges, ceux qui créent cette politique publique agricole, là, sont délocalisés. Ils ne vivent plus avec nous. On ne peut plus les traduire devant nous là, pour leur demander des explications. Et ça, c'est quand même un peu plus dur.
Et ça va probablement pas s'arranger. Hein. En France, d'ici 10 ou 15 ans, 50% des paysans vont quitter le métier en raison de leur âge. Et au rythme où il est prévu que ça se produise, il y a fort à parier qu'ils ne pourront pas continuer leur agrandissement et poursuivre leur extension aussi brutalement que ça. Et il est très probable que, pour partie tout au moins, le foncier agricole soit repris par des formes sociétaires parfaitement... délocalisé, pas identifiable, des fonds de pension qui sera extrêmement difficile de combattre.
Au même titre que c'est un exemple à peu près comparable, c'est ce qui s'est passé pour la pêche en France, où on a laminé véritablement la flotte française en disant maintenant c'est l'industrie qui prend la main. Aujourd'hui, je vais quand même les citer, mais c'est quand même Intermarché qui a la plus grosse flotte française pour la pêche. Voilà.
Avec des bateaux tellement gros qui vont en pêche 3 jours par
an. Ouais, non, mais c'est complètement dingue. C'est des bateaux usines, donc même à ce niveau-là, on en est rendu là. Ils ont quand même organisé une baston complètement dingue entre Français et Espagnols dans le golfe de Gascogne. Voilà, sous prétexte de primes, Pâques, en plus, d'un truc qui correspondait à rien, c'était pour de la prime agricole que les Français auraient plus si jamais on laissait pas les territoires. Enfin, il y a une espèce de micmac qui est monté là, mais c'est ce qui se passe partout. On monte des syndicats ou même entre bio et conventionnel. Enfin, c'est un système qui met les gens face à face tout le temps.
Il y a d'une part, voilà, il y a l'inégalité économique et sociale face à l'offre alimentaire. Une anecdote, hein, je fais par ailleurs partie d'un syndicat agricole, la Confédération Paysanne. On avait il y a quelques années lancé une campagne contre l'industrialisation de l'agriculture et on avait envahi. Enfin bref, on avait mené une série d'actions contre une usine à Alais, dans le nord de la France. Et bon, si on était suivi des inculpations, etc., ce qui avait fait qu'on s'était fait recevoir par le ministre de l'Agriculture, qui avait défendu ce mode de production parfaitement industrialisé et largement automatisé, qui était fondé en fait sur la production de méthane, en fait, hein, la méthanisation des déjections des bovins. Et dans ce système-là, dans ce modèle économique-là, la production de lait est un sous-produit en réalité. Et un sous-produit donc très bon marché. Puisque, par ailleurs, le méthane était subventionné. Eh bien, ce ministère nous avait sorti que ce modèle, il fallait quand même qu'on lui reconnaisse le mérite de permettre l'accès des plus pauvres à l'alimentation. Ce qui est faux, Jean-Claude nous en parlait tout à l'heure, hein, c'est l'argument de toujours. On parle d'économie d'échelle qui n'existe pas, d'une population pauvre qui n'est pas effectivement nourrie par ce modèle industrialisé. Et voilà, donc il y a ce problème fondamental de l'inégalité économique et sociale face à l'offre alimentaire, d'une part, et d'autre part, pour y répondre aussi, il y a ce libre-échange. On parlait tout à l'heure des distorsions de concurrence au sein du marché unique européen, et parmi les propositions qu'on évoque dans Reprendre la terre aux machines, il y a cette idée de prix minimum d'entrée sur le marché national. C'est-à-dire que l'idée générale, ce serait de neutraliser la logique.
Le fameux article.
Oui, c'est ça. C'est ça. Il s'agit de contourner cette interdiction, d'harmoniser par une démarche politique concertée entre les États membres, en mettant en place des prix minimums d'entrée sur le marché national. C'est-à-dire que pour chaque espèce, chaque produit agricole particulier, les importateurs ne pourraient pas importer des lots qui à des prix qui seraient inférieurs au coût de production dans nos conditions sociales, salariales, réglementaires, etc., etc. Ça, c'est une piste qui nous paraît indispensable, qui n'est certainement pas suffisante, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la logique de compétition. On parlait de l'inflation technologique. Il y a plusieurs dynamiques qui coexistent, hein, qui s'enchevêtrent pour nous mener qui dessine ce trajet fou sur lequel on est. Mais en tout cas, il nous semble que sans neutraliser en tout cas cette logique de compétition folle, disons que c'est une condition nécessaire sans être suffisante.
Ouais. Même manière que oui, la désescalade technologique, quoi. Très clairement, oui, c'est un ensemble.
L'exemple avec le libre-échange des betteraves sucrières, le gros débat qu'il y a eu avec la réintroduction des néonicotinoïdes sur les cultures de betteraves. Donc le débat se place entre environnementalistes et agriculteurs betteraviers, betteraves à sucre. Donc il y a un puceron qui crée des pertes de 10, 20, 30% des betteraves.
Ça pique le feuillage, ça empêche un peu la photosynthèse, bref. Voilà,
Faut tuer les pucerons. Le gouvernement réautorise les néonicotinoïdes, qui sont les tueurs d'abeilles bien connus, mais jamais n'est discuté le fait que quelques années avant, mais juste quelques 2-3 ans avant, là, avaient été supprimés les mécanismes de régulation des prix sur le sucre, et que donc le prix de la betterave à sucre s'était effondré, et que dans ces conditions économiques, la perte de 10-20% des betteraves devient insupportable.
Insurmontable.
Voilà, insurmontable.
Sans pesticides.
Voilà.
Et donc, le marché a réglé le problème. Voilà.
Et ils préfèrent réintroduire un pesticide terriblement dangereux plutôt que de toucher au mécanisme de régulation du marché qui existait encore 3 ans auparavant, quoi.
Oui, c'est désespérant.
C'est là en fait où tu vois
si on ne touche pas au mécanisme de marché, si on n'y touche pas du tout, il n'y a aucune issue possible. On retombe toujours sur la même chose. Et c'est ce que dit, si pourtant on fait tout ce qu'il faut du côté de l'atelier paysan et de tout le monde réuni et qu'on sort des gens, des dizaines de milliers de gens, encore faut-il qu'ils puissent produire quelque chose qui soit un coût acceptable pour les gens en face, qui trouvent un débouché. Et ce truc-là, il est indépassable. Et voilà, à part aller sur une logique de non-compétition. Et sortir de la logique de compétition, alors là on parlait de la compétition internationale, mais même la compétition tout court, juste devoir aller vendre sur un marché qui doit être avoir un débouché solvable, si on veut sortir de ça, ça s'appelle la socialisation, l'inverse de ça.
Prenons un cas particulièrement aigu, c'est celui de la production de certains fruits comme les pêches et nectarines. Je suis pas mal placé pour connaître le sujet, puisque je suis en train d'arracher les 6 hectares de pêche et nectarines que j'exploitais, que j'avais moi-même planté d'ailleurs au milieu des années 2000. En fait, on estime que le coût de production dans les conditions sociales françaises et salariales est autour de 1,50€ environ. les importations de pêche et nectarines en provenance d'Espagne, en l'occurrence, arrivent généralement au prix de 80 centimes. Bien évidemment que dans ces conditions, la production nationale s'effondre. Le principe des prix minimum d'entrée, c'est donc de faire qu'un importateur français de pêche et nectarines provenant d'Espagne ne pourrait pas faire entrer sur le territoire, sur le marché français, des lots de pêche et nectarines à moins de 1,50€. Voilà. Il ne s'agit pas de dérouler des barbelés sur la crête pyrénéenne. Hein. C'est pas ça. Il s'agit simplement de soumettre les importateurs à des contrôles sur documents annuellement et de sanctionner l'éventualité du viol de cette règle-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de prix minimum d'entrée plutôt que de droit de douane ? Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le droit de douane, il a le même effet qu'un prix minimum d'entrée. C'est-à-dire qu'il est fait pour... Il protège la production nationale parce qu'il renchérit artificiellement le prix de l'importation en taxant. Et cette taxe échoit, rentre dans les caisses de l'État importateur. Donc ça a le même effet sur la production nationale. En revanche, cette logique-là, dont on disait tout à l'heure qu'elle était organisée par les traités européens, puisqu'ils interdisaient l'harmonisation, c'est une visée, en fait, hein, ces distorsions de concurrence et leurs conséquences, qu'est l'harmonisation par le bas. Eh bien... L'intérêt des prix minimum d'entrée, c'est qu'il consiste finalement à acheter beaucoup plus cher qu'on ne le faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on achète à 1,50€ au lieu de 80 centimes les pêches et nectarines. Et cette manne supplémentaire, cette valeur ajoutée supplémentaire de la production, par exemple espagnole, pour ce qui concerne les pêches et nectarines, finalement, elle constitue une valeur ajoutée qui est un enjeu dans la chaîne de production entre les ouvriers agricoles et les agriculteurs et entre les agriculteurs et les exportateurs espagnols. Donc en fait, c'est certainement pas suffisant pour que les modes de production et que le niveau des droits sociaux espagnols puissent s'élever par la lutte sociale des ouvriers et des paysans. C'est certainement pas suffisant, mais en tout cas, c'est nécessaire. C'est-à-dire que s'il est impossible pour l'exportateur espagnol de vendre plus cher les pêches qu'il ne le fait actuellement, les luttes sociales des ouvriers exploités en Espagne ou des paysans exploités par leurs exportateurs ont bien difficilement de la matière.
Oui, elle est bloquée, quoi.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à la différence des droits de douane, le prix minimum d'entrée, il a un souci d'une coévolution des systèmes de production de part et d'autre de la frontière. Voilà. Non seulement il donne des marges de manœuvre, par exemple pour sortir des pesticides en France, chose qui est absolument impossible dans une logique de pression compétitive telle qu'on la connaît sur ses fruits avec l'Espagne. Il permet de relocaliser les 50%, enfin ou le plus possible et le plus vite possible de des productions qui ont migré ailleurs que sur le territoire national. Et en plus, donc ce prix minimum d'entrée, il peut permettre une évolution aussi des conditions de production, des conditions de travail, des modes de production de l'autre côté de la frontière. Tout en laissant, finalement, le conflit social en être le moteur. Il ne s'agit pas, parce qu'on est français, de décréter que la production espagnole, comme ça, là, décréter à la place de la souveraineté populaire espagnole, finalement, à la place des mécanismes de lutte sociale qui peuvent se dérouler dans la société espagnole. Il ne s'agit pas de se substituer à ces processus-là, historiques.
Il y a un autre effet qui fait que c'est mieux qu'un droit de douane, c'est que quand il y a le droit de douane, du coup, bah, ça reste pour l'Espagne, par exemple, le plus compétitif, disons, le plus industriel, qui s'en sortira parce qu'il pourra quand même être rentable malgré le droit de douane. Alors que là, ça laisse à plus de gens la possibilité d'accéder au prix d'un euro 50, du coup, d'arriver à vivre à cette production, donc peut-être pas que les plus industriels. Et du coup, entre deux pêches d'Espagne à 1,50€, pourra se jouer peut-être une compétition plutôt sur la qualité, même nous de notre côté. C'est-à-dire si on laisse rentrer finalement les pêches à 80 centimes, mais aussi les pêches à 1,50€, et tout ça est vendu à 1,50€, ça laisse la possibilité il est probable, moi je connais pas, mais il est probable qu'il y ait d'excellents producteurs de pêche en agrobiologie en Espagne. Et qui ne trouvent pas eux-mêmes de débouchés à l'exportation parce qu'ils sont concurrencés par leur propre industrie sur place. Et là, ça leur laisse une place.
Il va y avoir les mêmes phénomènes de marché de niche, en fait. Hein.
Ah oui, il se passe exactement la même chose.
C'est une forme de protectionnisme qui est un réel internationalisme.
C'est ça.
Puisqu'elle donne, dans les autres pays, les moyens du combat social. Quoi, du...
C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir contourner cette fameuse article 153. Seulement, voilà, ça pose immédiatement un problème. On décrivait tout à l'heure comment l'industrialisation de l'agriculture se justifiait par la paupérisation de pans entiers de la population sous le coup des politiques néolibérales. Donc en fait, nous, là, avec nos prix minimums d'entrée, et il faut pas s'en cacher, il s'agit bien de renchérir la valeur de l'alimentation, le prix de l'alimentation. Mais alors, toutes ces populations qu'on s'est permis de paupériser, à qui on s'est permis de démolir le droit du travail, comme le fait notre président de la République actuellement, démolir le régime des retraites ou l'assurance chômage, parce que on avait trouvé des moyens de les nourrir au meilleur marché par les importations, sans qu'ils descendent avec des fourches et des pics dans la rue, pour éviter ça, je veux dire. Si on renchérit par ce mécanisme de prix minimum d'entrée les prix de l'alimentation, on met en grande difficulté les populations paupérisées dans notre pays face à l'offre alimentaire. Et c'est là que... Voilà, c'est ça. Et là, il y a donc un enjeu. Il faut absolument, parallèlement à cet enjeu de relocalisation par les prix minimum d'entrée, et il faut trouver un moyen d'éviter les effets.
Reconsidérer sérieusement la question alimentaire et les moyens qu'on y.
Ce qui nous mène à la proposition accorde. Suivante.
Oui, proposition suivante.
Donc, on pense une sécurité sociale de l'alimentation comme un moyen de la démocratie, d'apparition de la démocratie dans l'alimentation, d'être capable, à un moment, de se donner le droit, nous, ensemble, collectivement, de dire ce qu'on veut manger, en connaissance de cause, et de se tourner vers ceux qui la produisent, pour avoir la connaissance de cause déjà, et pour nous dire, oui, ça on peut, ça on peut pas, on va le faire ensemble. Si on veut faire ça, il faut se donner les moyens d'eux. Il faut qu'on examine les conditions de marché, il faut qu'on examine les conditions de la machine et du capital, il faut qu'on examine tout ça. Voilà. Ça, vaste, hein, truc. Ouais. On a commencé. Et pourtant, c'est ça, c'est du boulot.
C'est du travail.
Ouais. C'est le taf pour les années à venir. Et ça, ça répond bien à nous sortir du milieu paysan, dans lequel déjà on a vu qu'on avait du taf, mais on était peut-être un peu enfermé. C'est quand là, pour le coup, la démocratie dans l'alimentation, ça va consister à essayer de concrétiser la demande. C'est-à-dire, au lieu de partir de l'offre et d'aller faire, aller chercher, regardez, j'ai une solution, vous voulez pas mon produit plutôt que celui-ci, les prix montent, les prix descendent, tout ça. Là, on part de l'idée qu'on va établir une offre, on va s'intéresser à comment s'établit une offre, on va discuter démocratiquement de ce que nous souhaitons manger, une offre, et après on va se chercher les moyens de la production. Voilà, c'est la différence. Alors la sécurité sociale de l'alimentation, après il y a des points qui se rapprochent de ce que c'est que la sécurité sociale de santé, l'universalité, la cotisation et le conventionnement. L'universalité, c'est pour s'assurer qu'on ne va pas en faire une politique pour les pauvres. L'universalité, ça veut dire que la sécurité sociale de l'alimentation, sous la forme qu'on va décrire tout à l'heure, va s'adresser à tout un chacun d'entre nous ici, quel que soit son revenu, quelle que soit sa classe sociale. Ce n'est plus une politique qui s'adresse à des pauvres, parce que ça supposerait qu'on dise qui est pauvre, et en plus ça suppose qu'une politique pour les pauvres, on est toujours en train de courir après la pauvreté, et on est incapable d'aller aussi vite que la pauvreté, ça échoue en permanence. Donc l'universalité, c'est une façon de s'alimenter, c'est un processus d'alimentation qu'on détaillera, mais qui s'adresse à tout le monde. Et parfois, c'est difficile à comprendre, puisque comme il va s'agir d'allouer une somme à chacun des Français, quelle que soit la même somme à chacun des Français, quel que soit son niveau de vie, on va nous dire, tu vas quand même pas filer de la thune à... Dis-moi ça, Bernard, parce que ça m'arrangeait. Ah, Bernard Arnault, voilà. Tu vas quand même pas filer la même thune à Bernard Arnault qu'à Nicolas. Donc, et pourtant, si, c'est ce qu'on va faire. Sauf que le deuxième pilier au-delà de l'universalité, c'est la cotisation. Donc la somme qui va être mise à disposition de chacun d'entre nous dans un budget consacré à l'alimentation sera recueillie par des cotisations sur nos revenus. Cotisations qui sont dont le pourcentage, le taux de cotisation est le même pour tout le monde. Évidemment, comme nos revenus ne sont pas les mêmes, chacun d'entre nous ne va pas cotiser à même hauteur à ces caisses de...
Oui, ça c'est le béaba.
Ah, c'est le béaba, d'accord. Mais important, parce que c'est là que justement tu dis, mais oui, mais Arnaud, on va lui filer, puisque c'est ça que tu as dit, Bernard Arnaud, hein. On va lui filer 150 euros à dépenser comme à Nicolas, mais lui, pour à accéder à ces 150 euros, il aura cotisé à une hauteur bien supérieure. Et Nicolas, lui, ouais, peut-être un petit peu moins, malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, on peut le plaindre d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est. Donc, nous, on a calculé. C'est un travail en cours. Hein. C'est vraiment un travail en cours. C'est 3 ans qu'on s'y met. Il est arrivé sur la place publique. On a été les premiers surpris à voir comment tout le monde s'est précipité là-dessus. Mais on comprend un peu pourquoi. C'est une solution. Alors, évidemment, aujourd'hui, les solutions, c'est la magie. Donc il faut quand même bien poser le problème avant de chercher des solutions.
Ouais, c'est important d'être précis.
Ouais, donc c'est ça, ça qu'on s'évertue. Grosso modo, pour dire les choses très vite, et puis on peut rentrer dans le détail après, on va donner, on va mettre à disposition de chacun 150 euros par mois. Chaque Français recevra ou aura à disposition 150 euros par mois qu'il devra consacrer à sa nourriture. Donc 150 euros par mois, 5 euros par jour, 1800 euros par an, si mes calculs sont encore exacts. Ça nous fait en gros 120 milliards. 120 milliards, on va socialiser. Ce sont des cotisations qui sont prises sur les revenus, sur la valeur ajoutée. Ça, c'est encore à calculer à quel endroit on les prend, qu'importe. Voilà, qui seront socialisées, donc enlevées du marché. 120 milliards. Les libéraux commencent à tousser déjà, mais n'empêche que certains d'entre eux commencent à se dire « Oh, peut-être que c'est pas si mal que ça, finalement, ça nous évitera de payer trop de flics, trop de gendarmes, ou un truc comme ça. » Sur le conventionnement, on va ajouter que c'est aussi sur le conventionnement, donc sur ces moyens de démocratie, donc du choix de la nourriture qu'on va se donner ensemble, des caisses de conventionnement, il y a un processus de construction de ces caisses de conventionnement. C'est un certain nombre de citoyens tirés au sort, élus pour... Certains proposent une élection, nous, on est plus pour le tirage au sort, etc., qui vont collectivement se réunir, qu'on va mettre en situation de connaissance de cause et qui vont choisir les lieux où tu seras autorisé, si on peut dire, à dépenser cette somme de 150 euros pour laquelle tu as cotisé. Hein. C'est pas des... On te donne pas ça, tu les as cotisés. Et donc, la mise en connaissance de cause, la délibération, c'est la démocratie dans l'alimentation. Quoi. C'est l'exercice de la démocratie dans l'alimentation. Alors, je ne sais pas si c'est important de le dire, je ne me rends pas compte. Je sais que pour nous, ça l'a été quand on l'a construit. Quand on dit ça, on se heurte à une certaine réticence de la part de certains de nos camarades qui nous disent « Oui, mais si tu files 150 euros à tout le monde, tu prends le risque de conforter le modèle industriel parce que la plupart, sinon tous les gens qui n'ont pas les moyens, finalement, s'ils consomment que des produits industriels, c'est bien parce que ça leur plaît, ça leur convient. » Il y a parmi nous des gens qui voient les choses un peu comme ça. Qui disent, finalement, si on file 150 euros à chacun, il faut qu'on arrive avec le cahier des charges de l'agriculture biologique, le cahier des charges de l'agriculture paysanne, nos injonctions sur la durabilité agricole, tout processus qu'on a fait. On va arriver là, sur la table de conventionnement, et on va leur dire, c'est ça ou c'est rien. Si vous voulez, avec 150 euros, vous bouffez ça ou vous bouffez rien. Donc, ça, c'est l'opposé de la démocratie. Évidemment qu'il y a un risque à prendre en s'adressant à l'ensemble de la population, donc nous y compris, en disant qu'est-ce que vous voulez bouffer. Il est possible, il est probable qu'on ait à discuter de est-ce qu'on va conventionner le ketchup, tiens, pourquoi pas. Allez, je vais employer un mot comme ça. Bah ouais. Ben pourquoi pas, on va en discuter. Hein, on va en discuter collectivement, on va voir ce que ça coûte, on va voir quels sont les effets sur la santé, quel est le plaisir qu'on en trouve et pour quelle raison on a besoin de ce plaisir-là, est-ce qu'on peut le trouver autrement. Ça, c'est des processus d'élaboration démocratique de notre désir de consommation en termes d'alimentation. Et puis après, on regarde les moyens de se le procurer. Donc, je pense que dans le conventionnement, il faut prendre le risque de la démocratie. Si on arrive à table du choix, en disant, voilà, le choix, on l'a fait pour vous, on sait ce que c'est que la bonne nourriture, on sait ce que c'est que la bonne nourriture. Alors aujourd'hui, la première chose à voir, c'est qu'il faut être très modeste dans ce domaine-là. La bonne nourriture, c'est la nourriture à laquelle on peut accéder. Qu'est-ce que c'est qu'une nourriture de qualité sous le signe de label, ce que tu voudras, que tu es obligé de regarder, à laquelle tu ne peux pas accéder? Ce n'est pas une bonne nourriture. Tu vois, ce n'est pas une bonne nourriture. Or, aujourd'hui, la plupart de nos productions ne sont accessibles aux Français pour tout un tas de raisons. Il n'y a qu'à 10% de la population française. Quoi. Donc, on ne peut pas dire que ce soit de la nourriture de qualité. Voilà le raisonnement. Donc, prendre le risque de la démocratie. C'est le seul moyen de profondément transformer le système de production agricole. Il n'y en a pas d'autre.
Il n'y a qu'un rapport de force massif, finalement, qui peut imposer ces transformations qui sont beaucoup trop problématiques pour l'ordre en place, en fait. On estime, dans les deux écrits qu'on a évoqués là, participer de la construction de ce rapport de force.
C'est ça.
Là, ce dont il s'agit, c'est pas de dire pouf, demain c'est autre chose. Par contre, ce dont il s'agit, c'est pouf, demain radicalement est lancé autre chose qui va durer probablement 2, 3 ou 4 décennies.
À titre personnel,
bien moi sûr. Ça m'a fait du bien en fait de me dire que la question n'était pas le grand soir.
Ouais. Ouais, ni même le petit matin.
Ouais.
Mais parce que les petits matins, quand même, parfois, c'est douloureux. On est bien d'accord. Non, non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Non, Hugo ? Je te sens pensif.
Tu t'en voulais
bien, maintenant. Non, mais dans la suite de ça, peut-être on pourrait tenter de conclure en disant que... Mais tu l'as déjà dit, Jean-Claude, en fait, on n'a pas le choix. C'est urgent de le faire, vraiment. Bon, voilà, on va pas redire pourquoi tout ça est urgent, mais que ce soit de la planète, de la question de la justice sociale, de juste qu'il y a des millions de gens qui bouffent pas, etc., etc. Et que là, on est dans un moment historique où ce qu'on dit là parle déjà à des gens. Il y a déjà plein de gens qui sont à deux doigts de franchir le cap, de quitter la ville, de changer de vie, de s'intéresser très sérieusement à ces questions agricoles et alimentaires. La question là, plus moi on pense, hein, plus il va y avoir de chocs là successifs dans tous les sens, de déséquilibre et de rupture de normalité là, la question alimentaire agricole va remonter dans les préoccupations. C'est le truc premier quoi, c'est le fait social total, manger. Et du coup, enfin, on commence à avoir les idées un peu claires sur comment on pourrait le faire de façon massive et totale. En fait, il faut se débarrasser définitivement de l'ensemble de l'industrie. Il ne faut pas juste grignoter un bout d'étagère au milieu du supermarché. Et c'est la seule façon, voilà, un peu les piliers qu'on a posés. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et du coup, c'est ce qui rend optimiste. C'est qu'en fait, avec des évidences, c'est plus facile de convaincre.
Pas mieux.
Oui, ça fera le mot de la fin.
Non ouais,
c'est le mot de la fin, c'est nickel. Bien. On en reste là ou on la refait?
Bon, ça, c'est la première prise, on est bien.
Il
n'y
avait pas de carte dans la caméra. De...
Quoi?
C'est déjà arrivé ça?